Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau direct Garde Nationale. Vous le savez, le direct Garde Nationale, c'est votre rendez-vous mensuel avec la Garde Nationale et avec les réservistes de la Garde Nationale. Je suis avec le général Poibeau, qui est le secrétaire général adjoint de la Garde Nationale. Mes respects, mon général.
Bonjour Louis.
Merci d'être avec nous, surtout que nous avons un nouveau direct thématique aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors j'ai beaucoup d'annonces ce soir, mais je voudrais surtout vous donner la première annonce. C'est un anniversaire. Aujourd'hui, nous vivons notre première année de webinaire et ça a été vraiment un grand succès puisque vous êtes de plus en plus à suivre donc ces webinaires. Nous allons poursuivre. Cette thématique de ce soir est importante. Elle est sur le service de santé des armées qui est une des composantes qui est intégrée à l'état-major des armées, et on va parler de ces réservistes. Et vous savez que les réservistes du service de santé sont aujourd'hui essentiels.
Donc le service de santé des armées, le SSA, hein. Donc on va parler pendant tout ce webinaire donc des réservistes de ce SSA, comment ils sont recrutés, quelle est leur carrière, comment aussi ils concilient leur équilibre entre leur vie civile et leur vie de réserviste. Bref, c'est le spécial SSA en général.
Donc spécial SSA qui est très important. Vous savez que dans chaque besoin, quand il y a une crise, le service de santé est toujours, toujours en première ligne. Alors je veux témoigner en France qu'on a un service de santé exceptionnel. On le voit dans les opérations extérieures, on le voit dans les opérations intérieures. Vous savez que le contexte demande énormément de ces spécialités paramédicales, médicales, mais aussi au soutien. Donc ce soir, c'est une thématique très très importante. Une autre annonce que je voulais vous faire, Louis, c'est que les employeurs aujourd'hui veulent donner des jours pour faciliter justement cette activité de réserve. Et quand on signe une convention de la Garde nationale auprès d'un grand laboratoire, d'un grand groupe, auprès d'un centre hospitalier universitaire, ils vont jusqu'à 30 jours, c'est-à-dire 30 jours rémunérés en plus de la solde qui leur permettent d'accomplir pendant leur jour d'activité, pendant leur jour de travail, cette formation qui apporte à l'employeur et qui apporte aux réservistes. Donc c'est vraiment une vraie dynamique. Et aujourd'hui, je vous encourage, que vous soyez étudiant, que vous soyez agent ou salarié, de pouvoir justement mieux découvrir le service de santé des armées et sa réserve.
Merci mon général, je crois qu'il n'y avait pas mieux comme introduction, et donc on poursuit tout de suite avec notre direct spécial service de santé des armées. Nous voici donc pour ce direct spécial réserviste du service de santé des armées, le SSA. Je vais vous présenter nos trois invités. Tout d'abord, à ma gauche, nous avons Madame Launay, qui est l'adjointe au délégué aux réserves du service de santé des armées. Bonjour Madame Launay, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous serez là pour nous éclairer hein, sur la façon dont la réserve du SSA avance, quels sont notamment vos objectifs, et puis si concrètement comment on peut devenir réserviste du service de santé des armées, et puis on verra. D'ailleurs, vous nous le direz, je fais un peu de teasing, qu'il ne faut pas forcément être soignant pour être réserviste du service de santé des armées.
Tout à fait.
On va en parler. Alors, nous avons deux réservistes témoins qui vont nous raconter leur parcours. Nous avons l'infirmière en soins généraux Iris, qui équivaut en fait à un grade de sergent-chef, c'est ça?
C'est bien ça.
Et à côté de vous, nous avons donc le médecin principal Benoît, qui équivaut à un grade de commandant.
C'est ça.
Merci également à tous les deux d'être là. On a hâte de connaître vos parcours de réserviste au sein du SSA. Alors, on va commencer avec vous, Madame Launay. La réserve du SSA, en gros, c'est combien de personnes aujourd'hui, donc en 2024, et votre objectif de recrutement cette année, quel est-il, s'il vous plaît?
Alors, le SSA, c'est d'abord 4 000 réservistes opérationnels de premier niveau. Donc, ces 4 000 réservistes sont très actifs puisque 75% d'entre eux font des jours au sein de notre réserve, au sein de notre nation. Ils sont soignants, mais aussi non soignants. Vous avez des paramédicaux, mais vous avez aussi des secrétaires, des techniciens de laboratoire, etc. Parce qu'en fait, les 4 000 réservistes sont répartis en 29 métiers. Ils ont tous leur place au sein de structures. Donc, chez nous, on les appelle les composantes. Nous avons 5 composantes. Donc, rapidement, nous avons une composante qui est la médecine des forces. Donc là, c'est plus, je dirais, une activité sur le terrain, dans les centres médicaux des armées. Et ce sont nos personnels qui accompagnent vraiment nos militaires au plus près sur le terrain pour les aider dans les consultations, les missions, les soins, etc.
Donc cette composante, donc médecine des forces, elle est pleinement intégrée au sein des autres armées.
Mais complètement, Tout à fait, puisque de toute manière, tous nos centres médicaux, et je dirais nos soignants et même nos soignants, sont vraiment au plus proche au sein des grandes unités, qu'elles soient air, terre, mer, voilà.
Très bien.
Nous avons une autre composante, bien sûr, ce sont les hôpitaux des armées, qui représentent à peu près 30% de nos réservistes. Nous avons également une composante ravitaillement. Le ravitaillement, c'est tout le matériel, mais également les médicaments. Enfin, nous avons bien sûr une composante qui est plus informatique, puisque ça, c'est le lien avec toutes les autres composantes et les armées. Et enfin, nous avons une composante qui est vraiment importante, c'est la formation.
La formation, alors pourquoi est-elle importante? Alors, la formation, d'une façon générale, elle est quand même importante partout, mais pourquoi au SSA plus spécifiquement?
Alors, il faut savoir quand même que nos réservistes viennent en fait pour pratiquer leur métier, mais de façon différente, autrement, comme on dit. Et alors, il faut bien leur donner, je dirais, une acculturation militaire, parce que ce qu'ils viennent rechercher, s'ils font le même métier, c'est le faire autrement, et ça veut dire dans des conditions de militarité pleine et entière. Donc, on va leur donner ce vernis, et on va leur donner également des formations de milieu, comme des formations d'aguerrissement, pour les acculturer à la médecine de guerre, hein, puisque c'est ça qu'ils viennent en fait faire. Et enfin, les aider dans la formation, enfin pardon, les former dans la formation continue.
Alors, il se trouve que donc dans les deux témoins que nous avons deux soignants, hein, donc Iris infirmière et Benoît médecin. Mais on tient à le rappeler, on le redit, hein, c'est important. Le SSA ne recrute pas que des réservistes soignants. Hein, vraiment, c'est important de le dire parce que c'est vrai quand on a un service de santé des armées, on a envie de se dire bon, mais finalement, c'est finalement que pour les professions médicales. Mais est-ce qu'on peut donner des exemples peut-être de réservistes que vous recherchez qui ne sont pas soignants?
Alors, je recherche bien évidemment des secrétaires médicaux. Donc, ces secrétaires, j'en ai besoin. C'est généralement bac plus 2 ou bac plus 3. Et j'en ai besoin, en fait, dans tous mes centres médicaux des armées, mais j'en ai besoin dans mes composantes, dans ma composante hospitalière. C'est essentiel, y compris même au ravitaillement avec la pharmacie.
Parfait, c'est très clair. Merci, Madame Launay. Donc on va passer maintenant à nos témoignages, notamment donc avec Iris. Je l'ai dit, hein, vous êtes infirmière. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivée vers la réserve du Santé des Armées, enfin vers le SSA?
Oui, alors moi je suis infirmière depuis 15 ans, bientôt maintenant. J'ai toujours été attirée par l'armée. Je me souviens au lycée, on était rentré dans la base aérienne de Cambrai et j'ai vu des étoiles plein les yeux en voyant les avions. Et j'ai jamais osé sauter le pas et jusqu'au jour où, pas loin de mes 35 ans, où je me suis dit si jamais je ne le faisais pas maintenant, je le ferais jamais. Je rencontrais des infirmières d'active et de réserve lors de présentations dans des écoles d'infirmières et je buvais leurs paroles systématiquement. Donc du coup, je me suis dit bah oui, vas-y, ben c'est le moment. Donc j'ai sauté le pas il y a même pas encore tout à fait 2 ans. Parce que ça fait, j'ai signé mon contrat au mois de juin 2022. Voilà, et pour moi la réserve militaire, donc c'est vraiment l'aspect militaire, parce que sinon dans le civil je travaille à l'hôpital, dans l'hôpital public. C'est la rigueur, c'est l'engagement pour la nation aussi d'une façon différente que celle que je fais tous les jours. C'est les valeurs de cohésion qu'on retrouve en fait, donc je me retrouve pleinement dans ce que je fais aujourd'hui dans la réserve.
Alors, vous avez dit, ça fait maintenant 2 ans que vous êtes réserviste. Vous avez dit, j'ai eu le déclic, donc j'ai sauté le pas. Concrètement, ça veut dire quoi, sauter le pas? Est-ce que vous êtes allé dans un centre de recrutement? Est-ce que vous avez envoyé un mail à quelqu'un, postulé quelque part? Comment ça se passe?
Alors, c'est ça. Il faut envoyer un mail en fait à la CERFREM, donc la section de rayonnement et de formation des militaires de réserve, qui ensuite nous recontacte par mail en nous demandant notre CV, lettre de motivation. Alors, je peux en parler aussi parce que en plus de travailler en antenne médicale, enfin, de faire de la réserve en antenne médicale, je fais du recrutement, bah, de l'engagement pour la CERFREM de Lille. Donc, je participe aux entretiens.
D'accord,
Je mène des
alors
entretiens.
là on va essayer d'éclaircir parce qu'effectivement, alors vous allez sur le site de la Garde nationale, qui va vous renvoyer vers donc celui du service de santé des armées, et il y a toutes les informations pour pouvoir postuler.
Tout à fait.
Et il y a vraiment des gens qui lisent les mails, on est d'accord, hein,
Tout à
Madame
fait.
Launay.
Il y a des gens derrière.
Donc on revient à Iris, et donc vous nous disiez que vous êtes venu chercher dans le monde militaire quelque chose de différent, une expérience différente par rapport à ce que vous viviez dans le civil, en tout cas à l'hôpital. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment possible? Parce que finalement, votre métier, ça reste quand même celui de la santé. En quoi il peut être différent dans le monde militaire?
Alors, les patients ne sont pas les mêmes déjà. Alors, moi, je travaille dans un service hospitalier où les gens sont malades, ils dorment. Là, en antenne médicale, on fait particulièrement des visites médicales périodiques avec des biométries. Donc, c'est pas du tout mon travail quotidien. Civil, beaucoup de vaccinations, quelques pansements, ça dépend aussi des antennes médicales, je pense, des populations qu'on accueille. Et ça change parce que l'ambiance de travail n'est pas du tout la même qu'à l'hôpital. On sent vraiment cette cohésion en fait qui existe. Avec les militaires d'active, qu'on retrouve parce qu'on est parfaitement intégré. En tout cas, bah, moi, on m'a tout à fait bien intégré dans l'équipe de l'antenne médicale. Et il y a aussi l'opportunité. Donc moi, pour l'instant, ça me concerne pas beaucoup parce que je suis maman de jeunes enfants. Mais on peut me permettre d'aller en opération extérieure, de faire des missions aussi sur le territoire national. De soutien des forces. Donc la possibilité d'exercice est vraiment très variée.
Oui, que vous n'avez pas forcément dans dans le
On
civil,
n'a pas du tout.
attaché, donc à l'hôpital dans lequel vous
C'est
travaillez.
ça, qu'on n'a pas du tout. Donc les missions de soutien, c'est des soutiens, par exemple lors des marches, lors d'exercices où on est là au cas où il y a un blessé. Donc c'est vraiment des missions qui sont complètement différentes que bah, de la perfusion, de la prise de sang que je fais tous les jours à mes patients. Donc
C'est complémentaire, enfin, en préparation de ce direct, vous me disiez, en fait, on n'a pas du tout les mêmes patients, on n'a pas le même rapport, aux patients, et le fait d'avoir ces deux expériences dans votre vie, ça vous permettait aussi, d'avoir un autre rapport à votre métier et aux soins, à l'utilité.
Ah oui, c'est con, c'est tout à fait différent, c'est un autre enrichissement, c'est une autre expérience. L'expérience de l'hôpital, je la mets au profit de la réserve et celui de la réserve au profit de l'hôpital, ben c'est vraiment complémentaire. Donc oui, je me retrouve, ben on s'y retrouve, quoi.
Alors, ben justement, je pense que c'est la parfaite transition pour passer à Benoît. Alors, je vous l'ai dit, il est médecin principal. Et donc, pour vous appeler, il faut dire monsieur le médecin principal, hein, qui est donc une spécificité du service de santé des armées. Vous aussi, cette complémentarité entre votre profession civile, en tout cas votre exercice de la médecine dans le civil et dans le militaire, vous la retrouvez complètement. Surtout que ça fait depuis longtemps maintenant que vous êtes réserviste, Benoît.
Alors moi, je suis réserviste depuis 8 ans maintenant. Je suis rentré dans la réserve après l'appel du président de la République, le lendemain des attentats du Bataclan. Voilà. Donc ça a été l'élément déclencheur. J'avais déjà ça en tête avant, mais comme j'avais voyagé beaucoup, j'étais médecin dans les ambassades, donc j'ai fait pas mal de pays. Et je ne pense pas que la réserve aurait été possible. On n'aurait pas pu me payer les billets d'avion pour venir faire des soutiens en France. Donc j'avais gardé ça quand même en mémoire, et c'est le Bataclan qui m'a fait passer à l'acte, si j'ose dire, et surtout le fait que mes enfants commençaient à être grands aussi, donc c'était pour moi plus facile de m'engager. Donc moi j'ai une formation de médecin généraliste avec une capacité de médecine tropicale et un diplôme de santé publique et communautaire, donc on est un peu vers tout ce qui est anthropo-sociaux, donc pays typicaux, et je suis rentré finalement, donc j'avais postulé pour Robert Picqué, puisqu'il y avait un centre de vaccination à Robert Picqué, et puis mon dossier n'aboutissant pas, je me suis tourné vers le centre de gendarmerie, parce qu'à l'époque, quand je suis rentré à 8 ans, il fallait quand même repérer sa future affectation. Donc c'était un circuit à double entrée.
Ouais, c'est pour ça qu'on va
Voilà.
pas trop en parler parce que
Voilà.
donc ça a changé, ça
Ça a
s'implique
changé. Voilà.
maintenant,
Donc c'était plus
on vient de
compliqué à
le dire,
l'époque.
c'était plus
Voilà.
compliqué. Donc on va dire que vous avez eu
Voilà.
gain de cause parce que vous vouliez vraiment
Voilà.
devenir
C'est ça.
réserviste.
Voilà. Et je suis rentré en gendarmerie, en fait, donc au Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie Saint-Astier, qui est un centre extrêmement actif, avec beaucoup de contraintes opérationnelles et de blessés. Donc, au niveau, les entraînements de gendarmerie créent des blessures. Et donc, je me suis développé dans tout ce qui est traumatologie. C'était pas mon facteur. Moi, j'aimais bien tous les germes, les parasites, les anémies. Voilà, ça, c'était mon truc.
Voilà, et on précise, hein,
Voilà.
parce que peut-être que certains vont tomber sur ce direct.
Ouais.
Donc, on est avec un médecin, donc
Oui.
effectivement.
Voilà. Et je me suis retrouvé à faire beaucoup de traumatologie, mais aussi de la médecine tropicale, grâce à ce centre de gendarmerie. Donc c'est tout à fait complémentaire. Mes compétences se sont améliorées.
Et j'ai pu maintenir aussi mes compétences en maladie tropicale avec les retours de Guyane ou d'autres pays d'Afrique, en particulier dans lesquels les gendarmes exercent.
Donc après cette première expérience donc en gendarmerie, qu'est-ce que vous avez, comment vous avez continué?
Alors j'ai continué puisque ma base d'affectation, c'est la 98e antenne, donc à Saint-Astier. Et j'ai continué. Alors après, je suis monté un peu en grade. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on a du mal à le quitter.
Vous faites carrière finalement
Voilà,
dans le service d'entrée des armées.
on fait carrière, on a une double vie, voilà, et donc on commence à se dire, tiens, j'irai bien voir ailleurs ce qu'il y a de l'autre côté de la mer Méditerranée, et on peut partir. Donc je suis parti au Gabon, ma première mission, ensuite j'ai fait Djibouti, puis ensuite l'Afrique, le Sahel, voilà, et là je repars au Sahel à la fin de enfin, cet été-là, voilà. Donc finalement, à chaque fois, on se dit, oh, c'est la dernière année, l'année prochaine, je ne pars pas. Et puis, on vous le demande et puis vous faites tout pour repartir. Voilà.
Alors, justement, sur cette complémentarité avec votre vie civile, on voit, enfin, vous venez de le dire, vous avez fait beaucoup de déplacements. Alors, vous le faisiez déjà avant, effectivement, dans le cadre de des affectations en ambassade. Mais là, j'ai l'impression que la réserve, en tout cas le SSA, a commencé à prendre de plus en plus d'importance aussi dans votre vie. Comment vous avez réussi à concilier avec votre vie civile, votre vie de médecin généraliste?
Alors, la vie de médecin généraliste, comment vous dire, on est obligé de trouver du temps. Donc forcément, les patients vous reprochent un petit peu le fait que vous les laissez pour aller dans l'armée. Et vous avez quand même un tri qui s'opère. C'est-à-dire que vous allez avoir dans votre patientèle civile les anciens combattants, les policiers, les pompiers, les gendarmes. Et au fur et à mesure, votre clientèle prend votre couleur. Elle devient aussi, enfin, bleue ou verte, ça dépend des situations. Et c'est plutôt sympathique, c'est plutôt valorisant pour les patients qu'on soigne, je pense, de s'investir.
Tous les deux, donc Iris et Benoît, combien de jours vous faites à peu près par an, Iris?
Alors moi, je fais une trentaine de jours, voire un peu plus. Je travaille à l'hôpital public, donc l'hôpital me permet d'être libérée jusque 30 jours par an, sur lequel je suis également payée par l'hôpital public et la réserve, ce qui me permet de ne pas réellement avoir un impact sur ma vie de famille. Hormis les périodes de formation qui durent souvent en moyenne 5 jours, où là je dois m'absenter plus longtemps de mon domicile, mais la réserve n'a pas réellement d'impact tous les jours sur ma vie personnelle, en fait.
D'ailleurs, on peut enfin saluer l'engagement de votre employeur, hein, parce que vous êtes salarié de l'hôpital, et en fait, c'est le fait que l'hôpital vous laisse effectivement faire ces périodes de réserve, c'est un engagement de sa part
C'est ça.
au profit de la nation. Vous, Benoît, vous faites à peu près combien de jours par
Je
an?
fais entre 90 et 120 jours, mais j'ai une spécificité, c'est qu'en gendarmerie, on a des soutiens de soir et de nuit. Donc, ce qui me permet de travailler la journée pour arriver à faire le soutien le soir en gendarmerie des entraînements des gendarmes.
Ouais,
Donc, c'est
donc.
particulier.
Oui, c'est particulier. Puis là,
Voilà.
on est dans une double vie, enfin, je veux dire, dans une continuité de vie, parce que vous avez
Voilà.
votre activité la
C'est
journée, et
ça.
puis ensuite le soir, et
Voilà. Après.
j'espère pas la nuit, mais bon,
Non,
les...
non, jusqu'à minuit en général.
Oui,
Ouais,
c'est
jusqu'à
ça.
minuit,
Ouais,
oui.
c'est déjà pas
Et
mal.
il y a des samedis aussi.
Et comme ben, vous êtes profession libérale, vous avez la possibilité de pouvoir agir directement, en fait, sur votre volume d'activité.
Tout à fait, exactement. Voilà. C'est l'avantage.
C'est l'avantage, mais ça nécessite aussi de faire des choix.
Ah, des concessions.
Et des concessions, c'est ce que vous disiez. Madame Launay, donc là on a effectivement le témoignage de deux réservistes santé. Ça reste quand même la priorité de recrutement, hein, d'avoir des infirmiers, des infirmières, des médecins qui viennent rejoindre le service santé des armées, parce que vous l'avez dit en introduction, c'est le point névralgique de toutes les forces armées.
Alors, tout à fait. D'abord, on concourt bien sûr, je dirais, à la réalisation de toutes les missions. Et dès qu'en fait, on a une unité qui part sur le terrain, que ce soit à Mailly-le-Camp, par exemple, très exotique, ou encore, je dirais, plus loin, au-delà de la Méditerranée, on a effectivement un médecin, enfin, un praticien. Le praticien, il est médecin, il est pharmacien, il est vétérinaire ou chirurgien-dentiste. Et il a avec lui une petite équipe, parce qu'un médecin n'est jamais seul. Donc, il a toujours son infirmier, un aide-soignant. Donc, en unité, enfin, je dirais, en petit groupe constitué, il va vraiment au profit des unités sur le terrain.
Mais il y a aussi, on va dire, tout le quotidien, le récurrent, qui sont les visites médicales des militaires. Et ça, il ne faut pas le négliger, parce que quand vous devez, vous l'avez dit, hein, quand on doit envoyer effectivement des régiments, des unités en opération extérieure, eh bien, il faut s'assurer qu'ils partent en bonne santé, que tout est OK. Et ça, ben, c'est le service de santé des armées qui s'en assure.
Affirmatif, y compris pour les personnels civils aussi qui veulent faire de la réserve, puisque au sein des armées, nous avons le personnel civil qui se rend disponible pour faire de la réserve.
Et donc je parlais des missions, peut-être Iris sur donc vos derniers mois d'activité, quelles ont été peut-être les missions qui vont plus marquer
Alors moi j'ai pas de détails croustillants à donner sur des missions extérieures parce que c'est souvent ce qui intéresse le plus. Moi mon activité principale c'est en antenne médicale, donc comme vous le disiez pour les visites médicales périodiques, les visites médicales avant départ, les vaccinations pour s'assurer que les militaires soient en bonne santé, partent en bonne santé pour éviter entre autres les rapatriements d'urgence. Ce qui est bien dans la réserve, c'est que ça nous permet de faire différemment de d'habitude. Et là, ça m'a permis en fait d'intégrer la section de rayonnement et de formation militaire de Lille, là où je fais donc des entretiens d'engagement. Il y a trois sections différentes en fait. Donc il y a une section engagement où on fait les entretiens d'engagement. Il y a une section de rayonnement auquel je participe, où on fait les salons étudiants, où on fait les journées éducation nationale défense. Donc on va dans les lycées présenter un peu ce qu'on fait, répondre aux questions.
Action de
C'est
visibilité et de
ça.
contact avec la
C'est
population.
ça. Et dans les écoles d'infirmières. Moi, je le fais déjà dans le civil, ben, sur mon métier civil, parce que je travaille dans un milieu un peu spécifique. Et j'ai proposé à la réserve, de continuer ces actions-là, mais sur la version réserve SSA. Donc, ils m'ont proposé de continuer. Donc, je vais dans certains IFSI, donc les IFSI, c'est les écoles d'infirmières, pour expliquer ce que c'est la réserve et voir même s'ils veulent devenir d'actives. C'est possible en hôpital d'instruction des armées. Et également, il y a une dernière section qui est la section formation que j'ai intégrée aussi parce qu'on est en train de construire une formation militaire initiale du réserviste, donc une FMIR 2 sur l'île et
Spécifique service santé des armées.
spécifique service de santé des armées. Je ne sais pas si vous souhaitez que j'explique ce que c'est qu'une FMIR.
Alors, effectivement, on voit la formation
Ouais.
militaire initiale du réserviste, mais c'est vrai que c'est une info intéressante de savoir que quand on s'engage dans le service santé des armées, il y a une formation militaire initiale qui est spécifique
C'est
au
ça.
SSA.
Ouais. Et donc je fais partie des futurs encadrants parce que ça va être pour le mois de mai. Voilà. Et c'est des choses que voilà j'ai complémentaires à mon travail d'antenne et qui me permet de faire des choses différentes de ma vie civile en fait. Donc c'est
Alors,
super intéressant.
Benoît nous l'expliquait. Alors, c'est vrai que ça fait maintenant plus de 8 ans qu'il est réserviste. Vous, ça fait un peu moins de temps, mais on voit quand même un début de carrière qui est en train de se dessiner dans la réserve du service santé des armées. Est-ce que vous l'imaginiez, cette carrière? Est-ce que vous vous disiez, au moment de rejoindre le service santé des armées, je vais avoir un parcours en changeant de grade, peut-être en changeant aussi d'affectation en ayant des différentes missions, au moment où vous êtes engagé?
Absolument pas. Absolument. Moi, je l'ai fait pour être militaire, enfin, clairement, avec mon diplôme d'infirmière, parce que je l'ai, je sais bien le faire et j'ai de l'expérience. Mais je voulais avant tout, moi, être militaire. Et je ne pensais pas qu'il y avait tant de possibilités que ça. Donc, un de mes objectifs, c'est un jour partir en opération extérieure ou en mission courte durée.
Peut-être
Mais
avec Benoît d'ailleurs.
peut-être avec Benoît, on sait jamais. Mais non, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Les possibilités sont larges. À partir du moment où on a envie, on le dit, on le montre. Et voilà, c'est un engagement. Il y a quelque chose de personnel dedans. Et en fait, on peut faire beaucoup de choses. Enfin, les possibilités sont énormes.
Alors, Benoît, vous aviez commencé effectivement à nous dire quelles étaient vos missions. C'est plutôt les destinations de vos missions. Mais alors, concrètement, quand on est médecin militaire, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, ce qu'on fait, on fait d'abord les aptitudes. L'aptitude initiale, c'est-à-dire pour entrer dans l'armée, pour que les soldats entrent dans l'armée, s'assurer que leur état de santé est compatible avec les missions qui vont leur être confiées. Ensuite, il va y avoir le suivi du militaire, parce que dans l'armée, il faut que le militaire soit en bonne santé le plus longtemps possible, pour qu'il reste opérationnel. Et donc ça, pour un médecin civil, c'est un peu compliqué parce que les médecins d'active sont formés très tôt à ça dans leur cursus. Le médecin civil a un peu plus de mal. Donc on a des points forts et des points faibles, nous les civils dans l'armée. Je peux dire avec précision les points faibles de chacun, des militaires et des civils. On sera après meilleur sur toute la pathologie chronique, parce que nous, les généralistes, on soigne des gens plutôt âgés avec des maladies, c'est polypathologique. Dans l'armée, forcément, il y a plutôt des gens en bonne santé. Voilà. Après, on va retrouver les malades, surtout chez les officiers supérieurs, plus âgés, etc. Plus tu montes en grade, plus tu vieillis, plus tu es malade. Bon, je résume, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, on apporte vraiment, le généraliste va apporter ça au service de santé des armées. Donc, le lien armée-nation, là, prend tout son sens, civil-militaire. On n'est pas trop bon en traumato, nous. Bon, normal, bon, ben, on voit moins de traumatologie que les militaires, que les médecins militaires actifs.
Oui, c'est ce que disait Madame Launay, la
Voilà.
médecine de guerre, hein,
Voilà.
c'est
Alors,
un métier.
ça,
Voilà.
voilà. Et ça peut aller des blessures à l'entraînement, aux blessures au combat. Bon, nous, forcément, on sort de notre zone de confort, hein, le généraliste de base. Et, bon. Donc, pour nous, c'est quand même un défi. C'est-à-dire qu'il faut s'y mettre, il faut travailler, il faut bosser.
Mais c'est un apprentissage.
Ah oui, et puis c'est pas facile. On le dit pas que c'est pas facile, parce que bon, mais voilà, mais c'est pas facile. Donc il y a des choses qu'on va apprendre et qu'on va apporter. La pédiatrie, par exemple. Alors la pédiatrie dans l'armée, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants dans les rangs,
C'est ce qui est plutôt une bonne chose.
ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà. Donc là, vraiment les généralistes pour soigner les familles et surtout quand on est en opération extérieure ou en mission à l'étranger, on est très content d'avoir un réserviste généraliste en général pour soigner les enfants. Donc il y a vraiment une complémentarité. Après, ce que je voudrais dire, c'est que dans les missions, ce qui est très intéressant, c'est le binôme infirmier-médecin. On n'a plus dans le civil. Dans le civil, on est entouré d'infirmières, mais il n'y a pas vraiment de binôme. Voilà. Dans l'armée, il y a la cohésion et puis il y a le binôme, c'est-à-dire la confiance réciproque. On retrouve l'humain. C'est quand on part tous les deux quelque part, il faut quand même, vaut mieux s'entendre bien et surtout être au courant de ses incompétences respectives. Moi, dès que je pars en équipe avec quelqu'un, je dis, on se réunit, je dis, bon, qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Chacun y passe et dit ce qu'il ne sait pas faire. Parce que dire ce qu'on sait faire, c'est facile, mais ce qu'on ne sait pas faire. Et après, chacun mutualise ses incompétences. Et en mutualisant les incompétences, on peut arriver à une prise en charge satisfaisante des blessés. Parce que forcément, on va se former chacun. Voilà, donc je pense qu'il y a ça, il y a la cohésion, les missions, donc c'est le soutien aux forces dans les entraînements, mais aussi sur le terrain, sur les théâtres militaires, d'opérations militaires. Ça peut aller aussi sur la formation. Donc moi aussi, je travaille un petit peu sur la formation des internes en médecine générale. Civils pour leur donner envie de rentrer soit sous contrat, soit réserviste dans l'armée. Voilà. Alors après, la carrière en soi, quand on met les pieds là-dedans, on sait pas trop où on va. Hein. Comme on dit dans l'armée, on va voir en conduite. C'est ce qui se
Ouais, ça.
passe. Voilà.
Vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez pris au jeu,
On
finalement.
se prend au jeu. Voilà. Et le succès, pour moi, le meilleur compliment qu'on ait pu me faire en 8 ans, c'est quand on a commencé à me demander dans quelle école du service de santé de l'armée j'avais été formé. Et là, quand on commence à vous demander si vous avez été formé à Bordeaux ou à Lyon avec ceux d'Active, vous vous dites que
Ouais.
la bataille est gagnée. Pas la guerre, mais la bataille.
Benoît, ce qu'on pourrait dire peut-être à des médecins généralistes ou peut-être à des étudiants en médecine hein, qui nous regardent, dans votre témoignage, on sent que le médecin généraliste, c'est un médecin qui est plutôt solitaire. Alors bien sûr, il peut être associé au sein de cabinet, mais genre dans sa pratique, il est solitaire. Et là, ce que vous nous expliquez sur ce que vous faites dans la réserve, c'est une équipe. Vous avez dit le binôme infirmier, mais on sent que vous avez aussi une approche de votre métier qui est radicalement différente. Vous faites de la médecine, mais c'est différent.
Tout à fait. C'est-à-dire que quand on est dans l'armée, on est une équipe. Voilà. Et chaque membre de l'équipe, s'il en manque un, ben la mission n'est pas possible. Voilà. Dans le civil, c'est différent puisqu'on a des structures de soins qui prennent le relais. C'est-à-dire qu'on peut se permettre d'être relativement solitaire, même si maintenant l'exercice devient coordonné et en groupe. Les choses changent. Donc moi, j'encourage les jeunes à avoir une double vie. La double vie, c'est intéressant. Et surtout quand
Ah, une double vie civile militaire, hein, on
nous sommes
précise.
d'accord. Voilà, civil et militaire.
Madame Launay, nous avons donc une loi de programmation militaire qui fixe des objectifs ambitieux hein, pour la réserve. Ça concerne toutes les composantes de la garde nationale, notamment le service santé des armées. Quels sont ses objectifs pour le service santé des armées?
Alors, tel que le ministre l'a dit, nous devons doubler effectivement la réserve. En ce qui concerne le SSA, nous sommes déjà en avance de phase sur notre trajectoire de montée en puissance. Donc moi, j'ai déjà, si vous voulez, rempli mes objectifs, je vous dirais, pour 2 ans, 2 ans devant moi. Néanmoins, notre effort, ce qu'il va falloir aussi, comme disait Benoît, il va falloir accepter, accueillir les nouveaux engagés qui veulent venir à la réserve, et il va falloir faire des visites d'aptitude. Donc, plus je monte en fait mon effectif en réserviste au niveau du SSA, plus je remplirai les effectifs généraux qu'a demandé le ministre.
Donc, ça veut dire que les vannes du recrutement au sein du SSA, que ce soit la réserve, parce que c'est l'objet effectivement de ce webinaire, mais aussi dans l'active, elles sont ouvertes.
sont pleinement ouvertes, tout à fait. Pour ça, nous avons également, je dirais, abaissé certaines aptitudes physiques, parce que là aussi, eh bien, on prend en compte donc toute la population, toute la société française. Donc, pour certains, je dirais, pour certaines fonctions à remplir au sein du ministère, eh bien, nous aurons des normes d'aptitudes physiques différentes selon, en fait, la fonction tenue au sein du ministère, au sein du SSA.
Alors, c'est très important ce que vous êtes en train de dire, là, Madame Launay, parce qu'on a beaucoup de questions, effectivement, à ce sujet. Quels sont ces critères? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent? Quels sont les critères pour rentrer en tant que réserviste dans le SSA aujourd'hui?
Alors, je dirais, il y a les critères communs aux autres armées et services, c'est-à-dire l'âge, 17 ans, bien sûr, minimum. Vous avez la condition physique, c'est ce que je disais, un petit peu plus souple maintenant, certains selon les fonctions tenues. Nous avons bien sûr un casier judiciaire vierge, hein, là c'est essentiel. Nous avons des conditions de diplôme, parce qu'en fait, dans le SSA, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nos professionnels qui viennent en tant que réservistes ont des professions réglementées, donc qui appartiennent à un ordre. Là, on a besoin effectivement d'avoir les diplômes, et après, il faut être libéré également des conditions de la JDC, la journée de citoyen, et sinon, après, on peut signer. À l'occasion du recrutement, bien sûr, on informe hein, les futurs candidats de cette disponibilité et de l'appétence pour ce métier, qui est vraiment particulier. Donc, il va falloir quand même, à un moment donné, même si vous êtes en libéral, même si vous êtes à l'hôpital, même si vous êtes chef de clinique ou je ne sais quoi, il faudra à un moment donné quand même vous libérer pour donner, parce que quand vous venez à la réserve, c'est pour donner. Alors, vous allez recevoir, bien évidemment, mais c'est pas non plus pour la solde, c'est vraiment pour le métier des armes.
Donc, une moyenne de jours souhaités. Hein,
Bah écoutez, aujourd'hui, sur mes 4125 réservistes, 75% d'entre eux, ce qui est considérable, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec plus de 3500 soignants, d'accord, et paramédicaux, sont plus de 30 jours par an. Donc, voilà. Après, vous avez bien sûr d'autres personnalités qui font sur les OPEX comme Benoît entre 90 et 120.
Vous voyez, il faut s'engager. On ne rentre pas dans la réserve pour faire 3 jours par an. Hein. C'est un engagement. On y rentre entier ou pas. Voilà, je pense que c'est quand même important de le dire. Et on a quand même une responsabilité. C'est très important de rappeler que c'est la mise en condition du soldat et qu'il y a quand même des conséquences si on ne les prend pas bien tard. Voilà.
Pour arriver à la fin de ce direct, qu'est-ce qu'on peut passer comme message, notamment aux jeunes qui souhaiteraient s'engager dans la réserve du service de santé des armées?
Alors tout d'abord, venez découvrir en fait, tout petit, ce qu'est le SSA. Je m'explique, on a une véritable action, il y a des réservistes qui est aussi au-delà de la formation, en fait, s'occupent de la jeunesse avec le SNU, hein, et donc qui s'occupent des classes de défense, mais également des missions d'intérêt général et MIG. Voilà. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, vous venez découvrir ce qu'est le SSA de l'intérieur. Vous viendrez en plus visiter des unités du SSA, ce qui est assez...
C'est quel âge? Parce que donc le SNU, c'est en général 17-18 ans, c'est ça?
Oui, alors la classe de défense, elle est en amont, en fait.
Et la classe
c'est
de défense?
Collège-lycée.
Collège-lycée,
donc déjà,
d'accord.
Tout petit, vous pouvez. Et là, ça va vous donner, en fait, je dirais, cette appétence pour le métier du soin. Voilà. Donc, pourquoi pas engranger sur, une école d'infirmiers, enfin, voilà, quand vous passez le bac. Et puis après, vous allez progresser et venir dans la réserve signer un contrat.
D'accord. Donc, ça, c'est vraiment les très jeunes. Et en fait, quand on est un petit peu moins jeune, c'est-à-dire on est étudiant dans l'enseignement supérieur, on fait peut-être des études d'infirmiers, d'infirmières, peut-être des études de médecine. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui s'intéresseraient potentiellement à cette réserve du service santé des armées? Qui regarderait ce direct et qui dit, tiens, pourquoi pas? Comment on peut achever de les convaincre?
Alors, en fait, selon, je dirais, votre spécialité, nous recrutons des internes avec un contrat de réserviste. Et là, ils vont pouvoir, en fait, dérouler leur carrière au sein du SSA, bien sûr, s'ils font des jours. Mais voilà, et après, ils auront, je dirais, des facilités avec leur université sur les ECTS, leur aménagement du emploi du temps, etc., etc.
Et puis,
c'est pour les étudiants en médecine.
Les étudiants en médecine, et puis on a en plus une autre info que Madame Launay vient de nous donner. Qui est que même si vous n'avez pas encore votre diplôme, vous êtes en phase en tout cas. On sait que ça dure longtemps l'étude de médecine, hein, c'est 10 ans. L'étude d'infirmière, c'est quoi? C'est 3 ans.
C'est 3 ans.
C'est 3 ans déjà. C'est costaud. Et bien avant même d'avoir votre diplôme, vous pouvez vous engager Via l'internat, via aussi
Même
peut-être des
dès
stages.
la première année
Dès la première année.
des études d'infirmière, bah, après la première année, ils peuvent avoir l'équivalence aide-soignant. Et dans ce cas-là, ils peuvent postuler comme réserviste pour être auxiliaire sanitaire. Ça
Sanitaire.
n'existe pas dans le civil, ça existe que au SSA. Mais y faire l'équivalence auxiliaire sanitaire pendant leurs études.
Donc on sait qu'on peut démarrer très jeune, Madame Launay. Et alors imaginons que je viens d'avoir mon diplôme de médecine, je souhaite être médecin généraliste, je cherche où m'installer, voilà, donc je suis un peu dans une période, on va dire, d'entre-deux. Est-ce que je suis intéressant pour le service de santé des armées?
Très, très, très
Ah!
intéressant.
Pourquoi donc?
En fait, vous allez venir, en fait, je dirais, compléter nos équipes au sein du SSA au profit de la nation.
D'accord, donc là encore une fois, on passe un message, hein, si vous souhaitez venir vivre une expérience avant de savoir ce que vous ferez dans le civil en tant que médecin généraliste, bah, venez dans le SSA. Et pour les moins jeunes, pour ceux qui médecins et infirmiers qui auraient 30 ans, 40 ans, peut-être plus, qui diraient bon non, c'est pas pour moi, j'ai raté le coche, hein, ce que peut-être Benoît et
Ouais.
Iris se sont dit à un moment, mais finalement non, parce que vous voyez, c'est la preuve, qu'est-ce qu'on peut leur dire, Madame Launay?
Donc, qui sont aussi très 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 intéressantes pour le service de santé des armées. Et je voudrais aussi compléter en fait par rapport à notre introduction. Il y a bien sûr, vous travaillez au profit bien sûr du SSA, des troupes sur le terrain, mais nous avons aussi des unités, enfin pardon, des soignants, des non-soignants, qui travaillent au profit d'autres entités comme sur les pompiers, les marins-pompiers, voilà, nous avons aussi, je dirais, une action au profit de la santé publique également.
Le SSA est partout, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, Madame Launay.
Tout territoire national, outre-mer, partout.
Merci, merci en tout cas à tous les trois. Le mot de la fin à Iris et Benoît. Iris, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui nous regarde et qui est encore en train d'hésiter
Ben, déjà, c'est un engagement, donc il faut que ce soit une volonté personnelle qui soit vraiment bien mature. Mais après, en fait, vous n'y perdrez rien, rien. C'est un enrichissement. L'armée, c'est la cohésion. Il y a beaucoup de cohésion et partout. D'autant plus chez les réservistes. Moi, ce que j'apprécie quand je vais en formation avec d'autres réservistes, c'est que tout le monde souhaite être là. Donc, il y a toujours une bonne ambiance. Il y a une entraide et ça se passe toujours très bien parce que bah, tout le monde est content en fait. Donc c'est venez on est très bien accueillis dans les antennes médicales avec le retour d'autres collègues réservistes. Il y a jamais de problème. Alors c'est un peu compliqué au début. Il faut se faire connaître et pas hésiter à aller devant, aller chercher l'information, mais une fois qu'on est dedans, en fait, c'est que du positif dans la vie, ben, dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Moi, j'y retrouve aussi vraiment vraiment beaucoup.
Donc la volonté d'engagement
Ouais.
initial, et puis ensuite, on donne beaucoup,
Ouais.
mais on reçoit aussi
Et
beaucoup en retour.
après, c'est un contrat qu'on peut suspendre si on souhaite ou arrêter si jamais ça ne correspond pas à ce qu'on attendait.
Ça peut arriver, mais bien
Si...
sûr, c'est ce qu'on ne souhaite pas, ce que ça
Non.
fonctionne.
Non, et puis on va savoir pourquoi, et à ce moment-là, on adaptera.
Exactement. Benoît, même
Alors
question.
moi, ce que je dirais, c'est aux externes, aux internes et aux médecins plus vieux, je leur dirais deux mots, engagez-vous, rengagez-vous, et je rajouterai, vous ne le regretterez pas.
Vous ne le regretterez pas. Merci à vous trois d'avoir dignement représenté le service de santé des armées, les réservistes du service de santé des armées. Si vous souhaitez donc des informations complémentaires sur la réserve du service de santé des armées, ça se passe sur le site du service de santé des armées. Vous pouvez trouver donc ces informations sur le portail de la Garde nationale. C'est également là où vous pourrez trouver des informations pour vous engager. On l'a dit, c'est par mail, mais c'est temporaire puisque on va avoir une intégration du service de santé des armées dans les autres plateformes de recrutement. Il y a bien des gens qui répondent aux mails.
Oui.
Voilà, on vous rassure aussi parce qu'on a eu quelques questions sur j'ai envoyé ma candidature, mais j'ai pas eu de réponse. Si vous l'avez envoyé hier ou il y a une semaine, soyez patient. Mais c'est quoi en gros peut-être les délais que vous imposez pour répondre aux candidatures?
Sous 3 semaines.
Sous 3 semaines. C'est quand même pas mal, sous 3 semaines, sachant que on a vu que c'est un engagement quand même important.
Je dirais que juste c'est des réservistes qui s'occupent aussi de l'engagement des réservistes, donc ils ne sont pas forcément là présents tout le temps. Donc il faut laisser quelques jours à ce que bah ils viennent faire leur période de réserve pour pouvoir répondre aux mails.
Peut-être on peut dire laissez passer 3 semaines, et si effectivement au bout de 3 semaines vous avez pas de réponse, un petit mail de relance, voilà, très poli et très sympa. Rappellera aux réservistes donc qui s'occupent de répondre à ces mails. de vous donner les informations que vous recherchez. On se dit à bientôt pour un nouveau direct de la Garde nationale. Merci encore de nous avoir suivis et à bientôt sur les réseaux de la Garde nationale.
Merci.
Aujourd'hui à Carpiane, nous sommes en train de faire une formation militaire initiale du réserviste, une FMIR 2.
Là, ici, on est en perfectionnement dans le but d'apprendre le secourisme combat de niveau 1. C'est le niveau que l'on demande pour pouvoir secourir en cas de problème. Et c'est valable pour tout soldat qui part.
Nos personnels sont formés par des moniteurs de secourisme, à la même enseigne que tous les militaires.
Il y a une partie théorique. Donc on explique les procédures à suivre et tout. Et ensuite, il y en a la partie pratique. Ils refont les gestes qui sont appris à la théorie. Pour cette formation-là, c'est vraiment toucher du doigt les problèmes qu'ils peuvent avoir les combattants et la difficulté de gérer le blessé plus le combat.
Pour entrer dans la réserve du service santé des armées, il faut bien sûr avoir un diplôme qui correspond à une fonction dans le service santé des armées. On prend des gens qui peuvent être utiles au service.
Je me suis engagée pour soutenir nos soldats sur le volet médical. Au sein de mon régiment, je fais surtout des expertises dentaires d'aptitude pour que les militaires puissent partir sereinement en mission. À côté, j'ai tout le volet militaire, manipulation d'armement, la vie, la cohésion militaire qu'on n'a pas beaucoup dans le civil. On va passer des journées au grand air comme ça avec une arme dans le dos, ça ne nous arrive pas souvent.
J'ai décidé d'intégrer la réserve pour apporter mes compétences en fait au sein du service de santé des armées, mais également exercer mon travail autrement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les vétérinaires dans le service de santé des armées ne font pas que des chiens. On s'occupe aussi de tout ce qui est hygiène alimentaire et sécurité de l'eau. Un jeune qui souhaite s'engager dans la réserve et qui serait un peu hésitant, ce serait que la réserve va lui apporter des formations complémentaires et l'aider à se perfectionner. Et puis c'est aussi rejoindre une équipe, un groupe, une cohésion. Et appartenir à l'armée. Alors l'engagement au niveau de la réserve, il est important parce qu'on est là pour soutenir l'homme, on est là pour les aider, apporter nos compétences. Mais quand on vient dans la réserve, on y vient et on y vient à fond.